Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux d'Ardèche et des multivers, vous qui interrogez le monde, qui vous engagez d'une manière ou d'une autre, jeunes et moins jeunes, bienvenue dans l'onde curieuse de ce mardi 30 mai. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui nous parle, ou tout au moins, plus prosaïquement, trois jeunes, Adèle, Eulalie et Quentin. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Élèves en terminale au lycée Vincent Dindy de Privas, qui, au terme d'une année de questionnement et d'action sur l'Anthropocène et les enjeux environnementaux, vont dans quelques jours au Parlement européen pour participer à des discussions et y apporter peut-être des propositions. Ils nous en parlent dans quelques instants, accompagnés de Florence Palot, leur professeur de philosophie.
Bonjour.
Bonjour Florence, qui est à l'initiative de cette démarche. Mais avant, on fait le point sur les actus culturelles et néanmoins locales et néanmoins engagées peut-être de ce début de semaine. Parce que découvrir, discuter, échanger, apprendre et désapprendre, c'est déjà agir et s'engager. Voici trois propositions stimulantes pour ce soir. Alors, on ne quitte pas d'abord notre sujet d'aujourd'hui, puisque ce soir, à 19h, à la librairie du Tiers-Temps à Aubenas, c'est une rencontre avec l'autrice Myriam Bahafou, qui est auteure du livre « Des paillettes », autrice du livre « Des paillettes sur le compost, écoféminisme au quotidien ». Myriam Bahafou est chercheuse en philosophie féministe, et plutôt que de décrire sa vision des écoféminismes, je lui laisse la parole. C'est un extrait du Book Club de France Culture, émission du 7 novembre dernier. Elle répond au micro de Sébastien Thème.
En fait, les écoféminismes ne sont pas une théorie philosophique, ce sont des luttes au quotidien qui sont pratiquées par des minorités de genre, de classe, de race, à travers le monde, contre différents types de projets. Des projets extractivistes, des projets nucléaires, des projets qui empoisonnent la terre, qui détruisent le vivant, et par vivant, j'entends la totalité des vivants. Et en fait, les mobilisations de ces minorités contre ces méga-projets capitalistes, coloniaux, au nom de la civilisation ou du progrès, sont pour moi des luttes écoféministes. Beaucoup d'entre elles, en fait, se disent écoféministes et s'auto-labellisent écoféministes. En France, il y a quand même une réception très intellectuelle du mouvement qui tend à l'enfermer dans des sphères universitaires. Ce qui fait qu'on a perdu en fait la dimension radicale, organique, de terrain en fait des écoféminismes. Et donc, si on peut donner des éléments de définition, il y a effectivement cette donnée de défense du vivant par les minorités, et aussi l'idée que l'écologie est avant tout sociale. L'écologie, ce n'est pas protéger la nature comme si la nature était quelque chose de lointain et de séparé de nous, mais plutôt comment en fait dans nos vies au quotidien, dans nos mécanismes de survie, de résistance à l'intrication de systèmes de domination aussi puissants que ceux qu'on connaît aujourd'hui, comment en fait les manières de faire groupe, de faire communauté, en fait sont porteuses d'un horizon écologique hyper prometteur. C'est ça en fait pour moi les écoféminismes aujourd'hui, et c'est pour ça que j'avais envie d'écrire un livre où on parlait de ces micro-situations au quotidien.
Myriam Bahafou, qui se sera ce soir à la librairie du Tiers-Temps à Aubenas à partir de 19h. J'imagine que ça fait écho à toutes vos questions. Si vous êtes plus dans le sud du département, c'est aussi ce soir à 20h30 qu'il y a à Barjac la projection du documentaire « We are coming, chronique d'une révolution féministe » de Nina Faure, qui sera suivi d'une ciné-discute avec l'association Boucan, qui est basée dans le Gard, on en a parlé, et c'est aussi d'autres questions qui se recoupent, les questions féministes et les questions écologiques. Alors, il y est question de trentenaires qui s'éveillent à ces sujets, qui traversent un peu toute la société en ce moment, et qui débutent sur un constat. Pourquoi les femmes jouissent-elles moins souvent que les hommes? Si vous voulez la réponse à cette question cruciale qui en entraîne tellement d'autres, eh bien c'est à 20h30 au cinéma de Barjac ce soir. On continue de parler d'une manière ou d'une autre jeunesse et engagement, puisque ce soir, toujours au Théâtre des Quinconces de Vals-les-Bains, dès 20h30, on parle d'une autre forme d'engagement qu'est le théâtre. Comment on porte des textes à la connaissance des autres, c'est l'enjeu et le plaisir d'autres élèves de terminale, ceux du lycée Marcel Gimond d'Aubenas. Ils sont 40, et après 4 ans d'absence sur les planches, à cause de, vous savez quoi, à cause du Covid, ils montent à nouveau sur scène pour nous présenter le spectacle intitulé « Le monde va mal ou bien ?» à partir d'extraits de théâtre contemporain, et notamment des textes de la dramaturge Catherine Verlaguet. Alors de quoi ça parle ? Voici les mots de leur professeur de français, Jérôme André, interrogé par le Dauphiné Libéré. À travers la mise en scène d'un enfant en train de zapper à la télévision, c'est une lecture du monde actuel qu'il propose, avec ses difficultés, son actualité anxiogène, mais aussi ses bulles de joie, comme les appelle l'un de mes élèves. Nous interrogeons aussi notre relation aux écrans, et on essaie de montrer qu'il se passe quand même des choses bien. Ben, on le souhaite, c'est ce qui se passe aussi autour de cette table. En attendant ce spectacle, c'est ce soir au Théâtre des Quinconces de Vals-les-Bains à 20h30. Demain, à la Blachère, un autre rendez-vous, toujours sur ces questions écologiques, notamment ces questions du monde, comment il va. C'est à 20h30 à Terre et Humanisme, pour une soirée conférence avec Damien Deville, qui est anthropologue, géographe, et auteur de plusieurs livres, dont « L'homme qui arrêta le désert » et « La société jardinière ». Il travaille sur la relation à l'autre et la diversité des territoires. En renouvelant notre façon d'habiter la Terre et en définissant avec justesse la place de l'humanité dans la grande fresque du vivant, l'écologie relationnelle devient une ode à la pluralité et à la solidarité. Ainsi soit-il. Il sera donc demain à la Blachère à 20h30 à Terre et Humanisme pour venir le rencontrer, discuter encore une fois de ces sujets. Si vous n'avez pas pu discuter de ces sujets, ce soir à la librairie du Tiers-Temps d'Aubenas. Une dernière actu, elle est culturelle et complètement détendue du militantisme, cette fois-ci, quoique. C'est le lancement demain du festival Clap 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 qui célèbre les arts de la rue et clôt depuis 2018 la saison culturelle albenacienne. C'est un festival hors les murs, hein, donc hors du théâtre Le Bourneau. Et ça commence demain, mercredi, à 19h, sur la place Palamos, dans le quartier des Oliviers, avec la compagnie TBTF, Too Busy to Funk, qui présente Mellow Yellow, un spectacle assez déjanté entre cirque, musique et danse, et qui est une forme d'hommage au cinéma. Et demain, à signaler, enfin demain, non, jeudi, ce sera sur le parking du Belvédère, près de votre radio préférée, à 18h30, c'est le collectif Tonne avec le spectacle Passage du Nord-Ouest. C'est du théâtre de rue, l'aventure du Grand Nord. Ça, ce sera jeudi à 18h30, l'occasion aussi de voir où est située Fréquence 7, donc sur le parking du Belvédère. Voilà, et le festival Clap 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 se poursuit d'ailleurs vendredi et samedi. Découvrir d'autres univers, c'est déjà militer un peu, donc pourquoi pas. On s'ouvre encore. Voilà pour ces actus culturels, et on continue en musique, mais toujours engagé. Ethically, ethically. Naturally. Five hours. One, reduce. Two, refuse. Three, reuse. Four, recycle. Five, rot. Ethically, ethically. One, reduce. Two, refuse. Three, reuse. Four, recycle. Five, rot.
facing problems, and only five hearts can solve them. So please try and use your mind, use your power to help mankind. Because we all have a choice, and that's the way to use your voice. Only the ones that follow these rules, we feel fine, vital and pure.
One,
reduce.
Two,
refuse.
Three,
reuse.
Four,
recycle.
Five,
rot.
Bien écouter Sweet and Wrote the Five R's, les 5 R, refuser, réduire, réutiliser, recycler, rot, pour pourrir le compost. Et c'est un choix musical de Sylvain. Merci Sylvain. Un petit clin d'œil à notre émission et notre sujet du jour. Puisque on parle anthropocène, on parle enjeux climatiques et on parle aussi de jeunesse engagée avec nos 4 invités, Adèle, Eulalie, Quentin et Florence. Rebonjour à vous 4.
Bonjour.
Alors, un petit point, parce que c'est vrai qu'on a la figure de Greta Thunberg et des jeunes qui sont mobilisés dans les grèves étudiantes, dans les grèves étudiantes pour le climat. On a l'impression que la jeune génération est plus formée, plus sensible, voire aussi plus angoissée par les changements climatiques, ce qui apparaît d'une certaine manière comme une source d'espoir, non pas qu'elle soit plus angoissée, mais au moins c'est un aiguillon pour changer. Mais les chiffres avec lesquels qu'il faut prendre avec des pincettes, les chiffres semblent dire l'inverse, c'est-à-dire que d'après les chiffres de l'Obscop, qui sont des chiffres faits par EDF, les 16-24 ans sont 42% à tomber dans la catégorie des climato-sceptiques. Alors, j'ai trouvé des chiffres différents, entre 36 et 42%, et la moyenne des Français, c'est entre 23 et 37%. Dans tous les cas, il y a une surreprésentation des jeunes, des 16-24 ans ou 25 ans, qui sont soit climato-sceptiques, soit qui sont insensibles à cette question. Vous, ce n'est pas votre cas. Vous avez intégré cette démarche et ces questions précisément parce que c'est un sujet qui vous touche. Alors, expliquez-nous quelle est cette démarche. Donc, quoi, vous inscrivez. Donc, vous allez les 9 et 10 juin au Parlement européen, mais ça vient pas comme ça. Toute l'année, vous avez travaillé sur ces questions. Alors,
on a commencé par, ça a été
Eulalie.
Une réflexion sur l'anthropocène. Donc, l'anthropocène, on le définit comme une ère géologique dans laquelle l'homme et les activités humaines sont la cause de cette destruction et de ce changement climatique, dérèglement climatique. Mmh. Et donc, à travers cette question-là, on a, depuis le début de l'année, avec notre professeur, on a formé un petit groupe sur... de réflexion sur ça et comment faire bouger les choses et comment... quelles solutions on peut apporter à ce problème-là.
Donc c'est un groupe d'élèves qui s'est constitué pendant votre cours, Florence, cours de philosophie.
Oui, c'est ça. La proposition, elle a été faite effectivement aux élèves que j'ai en cours à partir d'un cours sur la technique. Et on a posé la question du progrès technique. Est-ce que c'est toujours justement porteur de progrès humain quand on voit le dérèglement climatique et les conséquences que celui-ci peut apporter. Et donc on a amené effectivement ce concept d'anthropocène. Et les élèves de cette année prennent le relais, en quelque sorte, de ce qui existait déjà les années précédentes. Et on a pris la décision de réinterroger ce qu'est le dérèglement climatique. Et on a réussi à faire venir un climatologue co-auteur du dernier rapport du GIEC, qui s'appelle Gerhard Kriener, très accessible. Je pense que les élèves vont pouvoir en dire deux mots juste après. Et donc, on a eu la chance de le rencontrer dans notre amphi au lycée. Et à partir de là, petit à petit, on a construit des textes. Certains ont même écrit une dystopie en imaginant le pire scénario climatique qui soit. Parce que de fait, c'est scientifique, cela va arriver si on ne fait rien. Et du coup, comme il existe cet événement proposé par le Parlement européen, Destination de la jeunesse, donc moi j'y vais en tant qu'accompagnatrice et pas en tant que jeune, on a décidé de mener à terme ce chemin ensemble, puisque après ils vont voguer dans le système universitaire ou ailleurs, en allant au Parlement européen pour dire ce qu'ils ont à dire au travers de différentes activités qui concernent directement les effets du dérèglement climatique.
Alors revenons justement sur ce point de départ, cette conférence de Gerhard Kriener. Est-ce que ça a été pour vous une découverte? Est-ce que ça vous a ouvert les yeux? Ou qu'est-ce que vous en avez retiré de cette conférence?
Pas spécialement ouvert les yeux, mais effectivement ça nous a permis d'avoir quelqu'un d'une grande portée dans notre établissement. Donc nous on pensait pas forcément à nous et à ce que ça pouvait nous apporter directement, mais plus aux élèves du lycée, parce qu'on a pu faire aussi en amont des micro-trottoirs pour interroger les élèves, nos amis, nos connaissances, des gens qu'on connaît pas du tout, des profs, des surveillants. On a interrogé un peu tout notre lycée pour savoir aussi qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça, est-ce qu'ils savaient, est-ce que ils sont investis, est-ce que voilà. Du coup, c'était surtout pour pouvoir apporter à ces élèves-là une connaissance autre que la nôtre.
Et alors justement, quelles étaient les réponses? Est-ce que ça corrobore les chiffres nationaux?
Oui. En fait, beaucoup de gens le savent, ils sont au courant que quelque chose se passe pas très bien sur la planète, mais effectivement, ils sont au courant que des éco-gestes de trier ses poubelles, de manger certaines choses au lieu de certaines. Mais ils sont pas... c'est très à l'échelle, en fait. Ils pensent pas à l'échelle globale des solutions qu'on pourrait apporter hors nous, en fait.
Donc il y a quand même une prise de conscience. Il n'y a pas forcément de déni, en tout cas, dans ceux que vous avez interrogés. Mais sur les moyens d'action... ça reste très limité, où il n'y a pas de prise de conscience de quelque chose de plus général.
Mais pas de déni, effectivement, il n'y a pas de gens qui sont contre le fait de réagir pour la planète. Il pourrait y avoir des gens qui nous envoient balader en disant « ouais, les écolos, là, voilà, machin », mais effectivement, on n'a eu que des retours assez positifs, même des gens qui voulaient en savoir plus, qui aimeraient bien savoir comment s'investir maintenant à notre échelle, du coup.
Constat partagé par vous deux aussi, Adèle et Eulalie.
Parce que les gens sont au courant, enfin aujourd'hui c'est très difficile de nier la chose, donc tout le monde est au courant de ça, qu'effectivement on peut pas dire qu'il n'y a rien qui a changé depuis on va dire 150 ans. On voit clairement qu'il y a des rapports qui sont faits et tout, qui nous montrent qu'il y a eu une évolution au niveau du climat notamment. Donc ça, tout le monde est au courant. Après voilà, c'est au niveau des actions. On voit que c'est assez limité. En fait, ils se sentent un peu impuissants et c'est quelque chose qu'on comprend parce que nous, tout seuls, voilà, on peut pas se sentir. Enfin, c'est pas en arrêtant, en se privant de tout et en se culpabilisant qu'on va arriver à faire bouger les choses. C'est pas à notre échelle que.
Alors justement, quelles sont les propositions? Quels sont les moyens d'action d'après vous?
C'est une grande question et c'est aussi pour ça qu'on va à Strasbourg. C'est aussi pour voir les autres propositions que les autres pourraient apporter, parce que on a un rayon très très limité, en fait. On peut pas apporter de nous-mêmes des solutions, en fait. Il faudrait juste faire réagir les gens pour qu'on soit sur la même longueur d'onde à peu près et qu'on puisse à ce moment-là trouver des solutions ensemble, parce qu'on ne peut pas proposer des solutions individuellement chacun de notre côté, ça n'avancera pas. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est ce qui s'est passé il y a 50 ans, ce qui se passe tout le temps en fait.
Oui, et puis même à l'échelle, on va dire, nous, à l'échelle de citoyens, de faire un collectif, ça fait déjà avancer les choses, on va dire. Et ça peut faire bouger les gens, mais voilà, à l'échelle individuelle, c'est pas possible. Il faut que ça soit quelque chose de collectif, et puis même sinon, même à l'échelle nationale, c'est compliqué. Il faut que ça soit vraiment quelque chose qui prenne, en fait, dans le meilleur scénario, il faudrait que ça soit quelque chose qui se fasse à l'échelle mondiale, en fait.
C'est aussi, j'imagine, l'une des raisons pour lesquelles aussi vous allez au Parlement européen, c'est-à-dire pour soumettre des choses, en tout cas pour sensibiliser le Parlement européen au fait que vous-même vous êtes sensibilisé et que vous attendez de la part de décisions politiques que des choses soient mises en place. Hein, ce que j'entends d'après ce que vous dites, c'est que certes, il peut y avoir certains gestes, vous dites voilà, trier les poubelles, mettre le pot de yaourt à la cantine dans la bonne poubelle, ce qui est déjà ça.
Oui, il ne faut pas arrêter de faire ça, hein. C'est pas parce qu'on dit ça qu'il faut continuer à polluer, continuer à soutenir ça. Il faut continuer parce que c'est juste normal de trier ses poubelles, de faire tous ces petits éco-gestes. Il ne faut surtout pas arrêter parce qu'on dit les actions individuelles ne marcheront pas. Il faut dans tous les cas, c'est juste normal.
C'est un millefeuille. Voilà. Il y a les actions individuelles et puis il y a aussi des actions collectives qui peuvent être soit, je l'entends, portées par des collectifs de citoyens, mais aussi collectives au sens politique institutionnel, c'est-à-dire là, inviter les représentants politiques à mettre en place des choses.
Oui, parce que l'impact sera très différent. Enfin, vraiment... ceux qui peuvent avoir le plus d'impact, c'est ceux qui sont clairement aujourd'hui au pouvoir et qui prennent les décisions pour nous, en fait. Donc, va falloir que ces personnes-là fassent quelque chose, parce que sinon...
Il suffit de prendre un exemple, l'exemple du plastique, là, qui est justement en débat, et les élèves vont participer à une activité autour de cette question-là. Je pense que vous allez pouvoir en dire un mot juste après. L'éco-geste, s'il est nécessaire, il n'est absolument pas suffisant, parce que tant qu'on ne régulera pas justement sur la production du plastique, il y a fort à parier que l'éco-geste, même encore une fois, si effectivement il est nécessaire, il ne soit absolument pas suffisant. Donc il s'agira de changer de mode de production et donc du coup de mode de vie. Et donc du coup, effectivement, c'est à l'échelle législative européenne, au moins européenne, qu'il s'agira d'agir. Parce qu'on ne peut pas pointer du doigt toutes les personnes avec la même responsabilité. Il est évident que tout le monde n'est pas responsable du dérèglement climatique de la même façon. Or, parfois, derrière justement les éco-gestes, on gomme justement cette distinction-là et on fait passer pour de la responsabilité quelque chose qui relève du sentiment de culpabilité. Et en fait, ça marche très très bien. On joue énormément sur l'émotionnel. On dit « Ah, t'es coupable, etc. » Mais je suis coupable de quoi? C'est pas moi qui produis. Et quand je vais faire mes courses, si mes gâteaux que j'achète sont emballés individuellement, je ne suis pas... responsable. Voilà.
C'est ça.
Alors, est-ce que je dois arrêter de manger des gâteaux? Ça, c'est une autre question.
C'est ça. Oui et non. Du coup, il faut peut-être juste prendre des gâteaux qui ne sont pas emballés individuellement. Il faut faire ces choix-là aussi, en fait. Il ne faut pas dire qu'on nous manipule, parce que c'est vrai. Mais si, justement, on s'en rend compte, on peut tout faire pour éviter...
Oui, mais après, il faut être capable aussi de le faire, justement.
Oui, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse réagir les gens.
Oui, c'est ça. Être en mesure, être capable, et que ce soit en termes de sensibilisation, que ce soit sentir qu'on a la légitimité, ou sentir que d'autres possibles puissent advenir, et puis aussi se sentir capable financièrement. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que se dire... je ne veux pas forcément prendre la parole, mais c'est vrai que quand on dit, mangeons bio ou mangeons des produits issus d'une agriculture davantage respectueuse de l'environnement et des autres êtres vivants pour certaines personnes. Alors pas pour, d'ailleurs, le coût de la bio n'est pas forcément supérieur au bout du compte pour tous les produits, mais ça laisse quand même des gens face à un choix. Certains ne peuvent pas se permettre.
Non, c'est sûr.
Et
oui,
donc,
de culpabiliser les gens, c'est terrible, parce qu'il y en a qui n'ont juste pas les moyens, en fait. Et d'un côté, c'est bien de faire tout plein de petites actions à notre échelle, mais on sait très bien qu'il y a des gens plus riches qui polluent plus, qui consomment plus. Donc c'est un truc injuste ou frustrant de dire qu'on nous culpabilise à faire plein de petites tâches, même si on les fait et on sait que ça a un impact. C'est quand même important de...
De pointer du doigt les gens qui sont responsables.
Ouais, de rendre ça égal à tout le monde, quoi, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'impact que nous. Donc c'est pour ça que c'est bien d'agir à notre échelle, mais c'est tellement important que des gens qui ont le pouvoir puissent changer les choses.
Alors vous parliez justement du plastique, hein, ça va être l'un des ateliers au Parlement européen auquel vous allez participer. Vous vouliez dire un mot sur cet atelier et aussi sur l'actualité qui vous fait, enfin qui résonne justement avec avec cette thématique.
Ouais, donc nous, notre activité sur laquelle on est inscrite, on va dire, c'est une conférence en quelque sorte sur la gestion et l'avenir du plastique en Europe, parce que c'est surtout à l'échelle européenne qu'on travaille. Et donc, nous, ici, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que cette consommation-là, c'est un constat, c'est qu'aujourd'hui, de produire autant de plastique, on voit clairement que c'est pas la baisse, c'est pas quelque chose qui est en train de se calmer, on va dire, en quelque sorte, comme production. Et donc ça, c'est pas possible, parce que ça se retrouve dans les océans, et c'est vraiment, au niveau environnemental, c'est catastrophique. Et donc, c'est pour dire que, mais même ça soit des plastiques, on va dire, visibles ou pas visibles, parce que les microplastiques, c'est aussi très polluant, et ça, c'est très dur à nettoyer, on va dire, en quelque sorte. Et donc, pour dire que cette production-là, elle est plus possible, et donc trouver des solutions ou des alternatives à ça. Donc, ça va être, on verra ce que les gens proposent à l'échelle européenne, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui...
soit radical, en fait.
Ouais.
Parce qu'on ne peut pas juste faire diminuer, il faudrait totalement arrêter. Alors, c'est impossible, hein, à part trouver des matériaux qui remplacent le plastique.
À part trouver des matériaux qui remplacent le plastique, ou... justement, ne pas substituer un matériau à un autre, mais changer les comportements. Mmh. Ce qui y a de plus...
Oui, mais ça, c'est quelque chose qui vient, on va dire, à l'échelle des grandes entreprises, parce que c'est eux qui produisent le plastique en grande quantité.
Ah, on vient toujours au même point.
Oui, voilà,
même
c'est
point,
toujours le même point.
Ouais. Mmh. Au final, c'est pas forcément de notre faute. Mmh. C'est sûr même.
Oui, c'est ça. Mais c'est encore une fois, et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est... ce que vous aviez peut-être produit avec cette... alors là, c'était le sens inverse, mais la dystopie, c'est-à-dire raconter des histoires. En fait, l'un des mécanismes qui fonctionne pour se mettre... pour transformer nos modes de vie et nos comportements, c'est de nouveaux scénarios et de nouveaux discours, de nouvelles histoires qu'on se raconte. Quelles histoires on se raconte? Et ça, c'est... du coup, c'est intéressant aussi que vous ayez travaillé... alors, c'est pas ce petit groupe, mais que vous ayez travaillé aussi sur ces questions-là. Le narratif, comment on se raconte une autre histoire et qu'on a envie, effectivement, de changer nos comportements.
Alors... pardon. Alors tout à fait, le petit groupe en question donc n'est pas ici présent. En revanche, ils vont participer, comme nous tous d'ailleurs, hein, justement à une activité qui s'appelle des récits sur le climat. Alors il y a plusieurs pistes possibles. Hein. Ou bien on essaye d'imaginer à partir d'un des scénarios catastrophiques, on peut dire les choses comme ça, qui est amené par le rapport du GIEC et que nos décideurs politiques ne peuvent absolument pas nier. Ça, c'est sûr, hein, puisque le rapport du GIEC a même été simplifié pour justement le rendre accessible à tous. Et c'est un travail de...
y compris à nos représentants.
C'est ça. Non, mais en fait, c'est ce qu'il nous a expliqué, hein, Gerhard Kriener, qu'il participait aussi à la synthèse de 1500 pages en 10-15 pages pour justement faire en sorte d'être sûr d'être bien lu, quoi, finalement, peut-être aussi, juste ça. Et donc, le petit groupe qui s'est engagé dans l'écriture de cette dystopie, eux ont vraiment fait un choix extrêmement négatif, mais ça révèle quelque chose, de sans doute, de leur inquiétude, de montrer que ce qui risque d'être mis en place, c'est un système de plus en plus répressif, au point d'aller sanctionner de la même façon une personne qui... parce qu'on va tout droit vers la rareté de l'eau, hein, elles avaient pris ce thème-là. Donc ces personnes qui, lors d'une soirée, vont faire une bataille d'eau, vont se retrouver donc en prison et avoir la même peine qu'un individu qui, justement, vivait dans un système capitaliste et qui abusait de tas de choses et est passé au-dessus de lois commerciales et qui vont se retrouver avec la même peine. Et donc ça se passe dans une prison aux États-Unis, ça se passe dans une prison et les protagonistes, en fait, discutent entre eux. Et c'est extrêmement intéressant parce que tout le long de leur dystopie, ils ont imaginé le système législatif qui est devenu de plus en plus dur, justement pour celles et ceux qui ne font pas attention aux denrées rares, alors que les responsables, c'est la génération précédente. Et ça se termine de cette manière-là.
Florence, vous avez été surprise de la réaction de certains jeunes qui alors soit qui ne sont pas allés dans ces ateliers, soit les jeunes qui ont participé à ces ateliers. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous voyez une évolution aussi?
Oui, alors très très honnêtement, j'ai vu ce que disait finalement très bien Quentin tout à l'heure, c'est-à-dire des individus qui, sous prétexte qu'ils ont un petit peu la question climatique au programme, qui disent « Ah, encore, c'est bon, on sait », et donc qui, du coup, s'éloignent du questionnement qui pourrait les amener à agir. Après, il faut les entendre, parce que effectivement, surtout, il ne s'agit absolument pas de porter des discours moralisateurs, de dire « Ah, ici, il faut que tu t'occupes de ta planète », ce que certains aînés, j'entends par aînés des adultes, hein, enfin en tout cas des personnes plus âgées que les jeunes lycéens, ont aussi parfois tendance à dire du genre « Oh, la planète, de toute façon, après moi le déluge », et c'est aux jeunes, justement, de prendre la relève. Mais personnellement, je suis absolument en désaccord le plus total avec ce type de discours-là, parce que c'est faire porter la responsabilité sur des jeunes qui, finalement, ne sont pas responsables, puisqu'ils sont nés là-dedans. Et à côté, justement, de ce type d'attitude, on a l'attitude exacte inverse, justement, avec des Eulalie, Adèle, Quentin et d'autres, chacun avec leurs compétences, et moi j'admire leur capacité de mise en forme, en particulier d'utilisation du numérique, l'image d'un point de vue artistique, hein, on pourrait longuement en discuter parce qu'on a la chance d'avoir un collègue d'art plat qui est très engagé aussi sur ces questions-là, et de voir justement leur capacité à être précisément informés sur des tas de choses et qui nous donne à nous, adultes aussi, à voir des choses. Et cette mise en commun, enfin moi, pour moi, ça me réjouit en fait, hein, parce que je me dis que quand même, l'avenir est entre de bonnes mains et c'est à nous un petit peu de leur laisser la place et pas de leur dire faites le boulot, nous on s'en lave les mains, mais justement de leur laisser cet espace de à la fois d'expression et d'action, quoi. Donc il faut aller remuer le Parlement européen.
Ce sera les 9 et 10 juin. Comment cette année vous a fait évoluer? Comment ça a fait cheminer peut-être cette question différemment?
Alors peut-être qu'au début on n'était pas très positif sur, on va dire, même aujourd'hui on se rend compte, donc ça nous a permis une prise de conscience de tout ça, de tous les problèmes qui sont là, mais cet atelier ça nous a permis de voir que déjà on n'était pas tout seul et que même, je veux dire, petit à petit, là que ça devienne du concret en allant au Parlement, ça nous permet de se dire qu'on agit et que c'est quelque chose qui va peut-être avoir une portée au final, et donc c'est un petit peu, ça donne un peu d'espoir sur le problème.
Oui, et puis du coup, on était tout le temps un peu dans l'actualité, c'est-à-dire qu'on se regroupait souvent entre toutes les une et deux semaines ensemble pour parler de choses d'actualité et pour essayer de trouver des solutions et tout ça. Donc c'était quand même aussi très agréable d'avoir ça tous les jours, d'être investi dans quelque chose qu'on sait que c'est important. On se sent un peu privilégié quand on est, pour moi en tout cas, dans ce genre de groupe, parce que je trouve ça vraiment très important. En fait, on représentait un peu notre lycée, un peu les élèves de notre âge, un peu, je trouve ça très important et très gratifiant pour nous, en fait.
Très valorisant.
Ouais, très valorisant.
très important. Adèle, est-ce que tu veux rajouter?
Enfin, je trouve que cet atelier aussi, c'était génial parce que c'est avec notre prof donc, et c'est en dehors des cours, donc c'est plus personnel où on n'est pas face à un prof, face à un adulte, on va dire. Et ouais, ça nous a permis plein d'expériences en plus. On a eu cette conférence, là on va au Parlement. Et ouais, comme elle l'a dit, ça nous permet de voir qu'il y a quand même... on peut s'engager dans des trucs concrets et qui peuvent... enfin, qui nous montrent qu'il y a quand même de l'espoir, on va dire.
Mmh. Est-ce que vous avez des envies, peut-être, ou des pistes d'engagement collectif, autres, c'est-à-dire après cette année et après le bac?
Ça peut être à travers des... Nous, peut-être actuellement, ce qu'on fait, ça peut être signer des pétitions. C'est un peu notre expression de notre engagement, ça peut être ça. Mais plus tard, on pourra peut-être s'engager dans des collectifs, dans des organismes qui font que, voilà, on pourra encore porter notre voix, on va dire.
À notre échelle, en fait. C'est-à-dire que, autant je serai dans une ville où il y a un petit café associatif, et ben voilà, moi, je travaillerai à mon échelle là-bas parce que je sais que c'est important et que je soutiendrai à mon échelle ce que je peux.
Il y a des collectifs hein, comme les Soulèvements de la Terre qui sont bien actifs et qui commencent à émerger un peu partout.
Oui.
Une piste, éventuellement.
Oui, je voudrais rebondir un petit peu sur ce qu'ils ont dit. Là. Nous, ça nous donne un devoir, en quelque sorte, de réinterroger la manière dont on enseigne. Et il est impératif d'intégrer toutes ces questions-là dans les fameux programmes, ou au moins être capable d'en sortir pendant quelques heures, pour réinstaurer justement l'idée d'échange, et pas le face-à-face. De toute façon, c'est insupportable. Enfin, je ne comprends même pas qu'on puisse envisager l'éducation, d'ailleurs, de cette manière-là. Parce que, précisément, ils construisent le monde de demain. Et en toute logique, pour pouvoir construire un monde humain viable, il faut avoir un esprit critique. Et donc, de fait, laisser un espace de parole, d'échange, et d'accepter l'idée selon laquelle nos jeunes ont autant de choses à nous apporter qu'eux, on peut leur apporter. Quoi.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Sauf si vous voulez rajouter un petit mot avant de...
Non, pas spécialement.
De dire que voilà, on n'est pas impuissant et qu'il faut agir parce que collectivement, on peut y arriver.
Faut y croire.
On n'est pas impuissant. Ben, merci pour ces mots. Adèle, Eulalie, Quentin et Florence du lycée Vincent Dindy d'Aubenas. Merci à vous.
Merci.
D'être venus. Oui. De Privas, pardon. Oui, mais vous faites bien me dire. Ouais, j'étais partie. Non, du lycée Vincent Dindy, de Privas, bien sûr. Eh bien, c'est la fin de cette émission, mais vous pouvez rester sur les ondes de Fréquence 7, puisque à 15h, c'est le Télex, ce sont vos annonces. Vous aussi, vous avez le pouvoir et le pouvoir de nous dire ce que vous faites au 04 75 93 30 25. Vos annonces, c'est vous qui nous en parlez. À 17h, c'est la rediff de l'Onde Curieuse. Si vous n'avez pas tout entendu ou si vous voulez faire écouter cette émission à vos grands-parents, vos tantines et vos cousins. À 18h, c'est Polémix et la voix off. Avec au programme, est-ce que tu sais, Sylvain ?
Les musiques dans les manifestations, je crois.
Les musiques dans les manifestations, ok. Et à 21h, Metal Zone. Voilà, merci à toutes et tous. Merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Et nous, on se retrouve dans l'Onde Curieuse jeudi. À bientôt.